Bonjour, je suis Marwa, une jeune Libanaise pas si jeune que ça, et bienvenue dans mon podcast dans lequel on redécouvre les événements qui ont marqué le dernier mois à Beyrouth et autres régions libanaises depuis le début de la révolution.
Dans notre émission aujourd'hui, on va revoir les actualités des mois de novembre et décembre 2019.
Si vous n'avez pas suivi notre émission précédente, un petit retour en arrière. Cette révolution a commencé le 17 octobre 2019 et on entre bientôt dans le troisième mois de contestation. Cette révolution a commencé en octobre suite à l'annonce du gouvernement de nouvelles taxes sur les matières premières telles le pétrole et l'alimentation, mais le mécontentement, lui, existe depuis un certain temps déjà. Plus précisément, rien n'a jamais fonctionné depuis la fin de la guerre civile en 1990 et les conditions économiques sont toujours déplorables. Je vous cite entre autres la crise des réfugiés syriens, la crise des déchets, les problèmes de pollution, l'absence d'électricité et d'eau potable, la flambée des prix de l'immobilier, le tout dans un système politique corrompu et confessionnel. Avec moi aujourd'hui, Joumana, une activiste libanaise de mon âge qui va nous éclairer sur les événements du mois. Bonjour Joumana et bienvenue dans notre émission. Alors, que se passe-t-il au Liban depuis le 15 novembre ?
On va commencer par la fête de l'indépendance. Des milliers de Libanais se sont donné rendez-vous le vendredi 22 novembre, place des Martyrs au centre-ville de la capitale, contrastant avec la cérémonie non ouverte au public qui s'est déroulée en présence du président Michel Aoun et l'ex-premier ministre Saad Hariri. Quelques jours après, des casseurs du Hezbollah et de son allié, le mouvement politique Amal, ont commencé à attaquer les manifestants. Et puis lorsque les protestataires se sont regroupés devant le Parlement, ce sont les forces de l'ordre, mais surtout la police du Parlement, relevant directement du président de la Chambre des députés, Nabih Berri, également chef du mouvement chiite Amal, qui ont pris le relais contre les manifestants. La semaine d'après, l'affluence n'était pas aussi importante. Il fallait du courage pour redescendre dans la rue.
Et en ce qui concerne le gouvernement ?
Après l'échec de l'option Mohamed Safadi, un millionnaire de 75 ans qui était aussi ministre de la Finance de 2011 à 2014, qui a été nommé par l'ex-premier ministre Hariri et des représentants des groupes chiites Amal et Hezbollah. Alors là, les discussions sont au point mort. Michel Aoun, le président de la République, n'a toujours pas annoncé de date pour les consultations parlementaires en vue de nommer un premier ministre. Le camp du 8 mars est favorable à un gouvernement technopolitique. Les manifestants veulent un gouvernement entièrement composé de technocrates, indépendants des formations politiques.
On fait une petite parenthèse, tu nous expliques c'est quoi la différence entre technopolitique et technocrate ?
La technocratie est une forme de gouvernement où la place des experts techniques est centrale dans les prises de décision. C'est-à-dire que le pouvoir effectif appartient à des techniciens spécialisés qui sont appelés technocrates. Alors que technopolitique, c'est un gouvernement ayant à la fois des aspects techniques et des aspects politiques.
Donc, on était contre la nomination de Mohamed Safadi. Il n'y a pas d'autres candidats ?
Si, le 19 décembre 2019, Hassan Diab a été désigné Premier ministre.
C'est qui ce Hassan Diab ? C'est un ancien ministre de l'Éducation. Il a été désigné Premier ministre grâce au support du Hezbollah et du mouvement politique dont le président, qui est dirigé par son gendre, Jebran Bassil. Nous sommes le 24 12 2019, au 69e jour de la révolte et à quelques heures du réveillon de Noël, des rassemblements sont organisés partout à Beyrouth, notamment devant le domicile de Hassan Diab, devant le palais de justice de Beyrouth et devant la Banque du Liban, afin de crier le refus de cette nouvelle désignation, un autre premier ministre issu de la classe dirigeante corrompue. Et sur le plan économique et financier, qu'est-ce qui a marqué les mois de novembre et décembre ?
L'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note souveraine du Liban, passant de B négatif à CCC, citant des risques financiers et monétaires. Quelques jours après, l'agence a aussi dégradé les notes de trois banques libanaises, la banque Audi, Blom Bank et la banque Med, citant des risques de liquidité.
En termes financiers, c'est quoi la notation CCC ?
Tout simplement qu'il est déconseillé d'investir dans le pays ou les banques citées. En termes de notation financière, c'est l'équivalent à statut de junk ou statut de poubelle.
Mais sinon, le côté positif, c'est que les banques ont rouvert leurs portes après une longue période de fermeture, mais avec un renforcement du dispositif policier autour des agences. En effet, après une grève des employés et des banques qui avait bien duré suite aux agressions et violences contre les banques libanaises et leurs employés et pour cause des restrictions bancaires quant aux retraits en dollars. Mais pourquoi les retraits en dollars ?
On avait raconté dans notre émission précédente la dévaluation de la livre libanaise alors qu'elle avait toujours été fixée au dollar. Donc les Libanais se ruent sur le dollar pour compenser cette dévaluation. En retour, la dégradation de la situation financière et la peur des retraits massifs. Les établissements bancaires limitent l'accès aux comptes, imposant des restrictions sur les retraits d'argent, tous les transferts vers l'étranger et l'utilisation des cartes de crédit.
Tout cela renforce l'angoisse de la population et entraîne un effet boule de neige. Dans les banques, de très longues files d'attente, on peut attendre jusqu'à 2 heures notre tour.
Au début de la révolte, vous pouvez retirer 1 000 $ par semaine. Puis 400 $. Aujourd'hui, que 200 $. Je dois supplier la banque pour retirer mon propre argent?
Mais c'est quoi les causes de ce manque de liquidité? Comment en est-on arrivé là?
Le ratio de la dette publique par rapport au PIB est de 150%. C'est la troisième dette publique du monde. La spirale de l'endettement public a pu être entretenue grâce aux marchés financiers internationaux. Mais pas seulement. Les banques locales sont pour une bonne moitié la propriété de ministres, députés et riches familles locales. Lorsque l'État s'endette, ce sont souvent les banques libanaises qui achètent des bons du Trésor. Et plus l'État s'endette, plus les taux d'intérêt grimpent. Et plus les taux montent, plus les souscripteurs, les banques de politique et de riches familles libanaises s'enrichissent.
Dans ce marasme économique, chacun cherche à se prémunir de la perte de valeur de la livre libanaise en achetant des dollars, dont le prix ne cesse de grimper à mesure que s'effondre la valeur de la livre libanaise. Et les commerces dans tout ça?
À Beyrouth, dans la rue commerçante de Hamra, les boutiques restent désespérément vides. Les gens n'achètent plus que les produits essentiels. Les restaurants ferment leurs portes un à un. Les employés de nombreuses entreprises n'ont touché qu'un demi-salaire en novembre. Les enseignants d'écoles privées ont vu leur rémunération réduite. Les parents n'ayant plus les moyens de payer les frais de scolarité. Je vais vous raconter une petite histoire. Depuis 2 mois, 2 pères de famille, l'un au chômage et l'autre dont le salaire a été réduit de moitié, se sont suicidés. Pour les Libanais, ce sont des images qui rappellent les jours noirs de la guerre civile.
Combien de temps cette situation peut-elle durer?
Les gens se sont brutalement appauvris de 40%. Les perspectives sont sombres.
Merci Joumana pour cette intervention et merci pour votre écoute. À la prochaine pour un nouveau podcast sur la révolution libanaise.